France Musique. Bonjour Lucas Debargue.
Bonjour.
Bienvenue dans Musique Matin. Vous êtes pianiste, vous êtes né en 1990 à Paris. Vous êtes, comme beaucoup de musiciens solistes, d'ailleurs un grand voyageur. Dans les semaines qui viennent, vous produirez tout d'abord à Paris et puis au Wigmore Hall de Londres, à Abu Dhabi, au Théâtre Mariinsky à Moscou, dans le concerto en sol majeur de Ravel avec Valéry Gergiev à la direction. La Russie, un pays où vous connaissez bien, presque votre pays d'adoption, Lucas Debargue.
Il faut dire que à chaque fois que je m'y rends, depuis que je vais dans ce pays, c'est toujours la magie opère systématiquement. Parfois, je me dis oh, encore une fois, et puis dès que j'arrive même à l'aéroport, alors que les aéroports sont pas vraiment des endroits très sexy, là, dès que je pose le pied dans l'aéroport, Sheremetyevo, je me dis ça fait plaisir d'être ici à nouveau. J'ai découvert la Russie en 2012. J'ai eu la chance en fait d'être invité. Par ma professeure qui était très contente que je rentre au conservatoire de Paris.
Pianiste russe, Rena Cherechevskaya.
Et donc en 2012, je suis allé avec elle un peu pour représenter sa classe de piano française à Moscou. Donc j'ai découvert Moscou en 2012 déjà, donc avant le concours Tchaïkovski. Et quand j'y suis retourné pour le concours Tchaïkovski en juin 2015.
C'était en 2015, oui.
Voilà. C'est une expérience absolument incroyable, sans même parler du concours, le simple fait d'être là-bas, il faisait un temps superbe, la ville était très inspirante.
Qu'est-ce qu'il y a particulier alors, au-delà du climat et de l'aspect de la ville?
Alors, je vais parler pour moi parce que je peux pas, enfin ça je pense que c'est assez subjectif, tout le monde ne sentira pas la même chose. En revanche, à chaque fois qu'il m'a été donné d'y aller avec des amis français, proches, moins proches, en fait on s'est tous entendus sur une chose, c'est qu'il y a une énergie là-bas incroyable. On a moins besoin de dormir, on a moins besoin de se reposer. Il y a une sorte d'énergie, d'électricité. Je peux pas expliquer ça, voilà.
Qui s'inscrit dans votre jeu, dans votre interprétation, Lucas Debargue?
Alors après, pour l'interprétation, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très inspirant. Il y a quelque chose de, voilà, même dans tous les rapports humains, c'est vrai que je me sens très à l'aise. Je me sens plus à l'aise qu'ici, par exemple, à Paris. Ça veut pas dire que j'aime pas Paris. J'aime beaucoup Paris, c'est ma ville. J'en partirai probablement pas. Mais quand je suis là-bas, il y a vraiment une sorte d'élan qui
arrive. Vous parlez russe?
Un petit peu.
C'est vrai?
Ouais.
Vous apprenez?
Oui.
C'est important.
Chut, na rusko music.
Ah oui, c'est pas mal. Je ne pourrais pas vous répondre. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier de musicien, Lucas Debargue?
Pour moi, c'est très très difficile de faire la distinction entre ce qui appartient au métier, ce qui appartient à la vie. Je veux dire, pour moi, c'est une chance d'avoir ce métier parce que c'est un métier de vie. C'est-à-dire qu'on n'en sort jamais tout à fait. Il n'y a pas le travail et le loisir. Voilà. On est toujours un peu dedans. Ce que je préfère, c'est, je pense maintenant, c'est susceptible de changer. Hein. J'aurais pas dit la même chose il y a 2 ans probablement parce que j'ai rencontré du monde depuis. Je dirais que c'est vraiment encore et toujours les rencontres. Les rencontres musicales, les musiciens, les compositeurs, les artistes. Moi, voilà, rencontrer des personnes, me confronter ma sensibilité à une autre sensibilité, c'est irremplaçable. Donc je dirais même plus loin, c'est pas vraiment juste avec des musiciens, des gens qui ont un lien avec la musique, c'est les rencontres humaines en général. Il y a rien de plus inspirant que ça. Et en fait, il se trouve que le métier de musicien favorise ces rencontres. Alors après, on peut choisir de se fermer à ça. Et moi, je prends le parti de vraiment développer, au contraire, ces choses.
Thank you. Quelques mesures de cette toccata en note mineure BWV 911 de Jean-Sébastien Bach sous les doigts de celui qui est notre invité ce matin, Lucas Debargue. Enregistrement de 2016, une œuvre que vous jouez au sein d'un programme de concert avec lequel vous tournez depuis un moment. Vous jouerez d'ailleurs cette toccata le 17 mai prochain au Théâtre des Champs-Élysées. C'est toujours le plaisir de la réécoute ici quand on invite des musiciens. Vous vous écoutiez à l'instant Lucas Debargue, vous me dites « Oh non, je ne jouerai plus jamais ça comme ça, c'est trop carré, c'est trop timide. »
Ouais.
C'était
absolument.
Il y a 3 ans à peine.
Ben oui, non, mais c'est
en même temps. Ça peut être long.
C'est pas, oui, ça peut être très long. Il m'est arrivé beaucoup de choses depuis, et c'est vrai que j'ai gagné en confiance. Donc il y a des choses que j'ose faire maintenant.
Comme quoi, par exemple?
Ben tout simplement libérer quand on s'attaque à une pièce de Bach, de Beethoven ou même de Chopin. Là, c'est les 3 compositeurs de mon programme. Des compositeurs comme ça, il y a une grande attente des musiciens, de tout le monde, de ceux qui sont des amoureux de la musique, et une grande attente quand ils savent qu'ils vont écouter une pièce. Ils ont déjà pas mal d'interprétations dans les oreilles, et les pianistes aussi ont déjà des interprétations, des visions en fait dans les oreilles, dans l'esprit. C'est très difficile de s'affranchir de ça. Et en fait, ça demande du temps d'arriver à reprendre la pièce à l'origine, d'arriver à vraiment n'avoir pour référence que la partition. Et pour pouvoir, c'est seulement à ce prix qu'on peut libérer le son de la partition et vraiment ouvrir. Là, ce que j'entendais, c'est vrai que ça m'a paru assez fermé dans le son, assez réservé. Alors que, voilà, la musique a besoin vraiment d'espace. Faut prendre cet espace, même si c'est une œuvre de Bach. Il y a tout un tas de préjugés qui courent, même des personnes très compétentes, enfin, ou spécialistes, d'autres moins spécialistes et moins compétents, prétendent qu'il faut respecter un métronome, un tempo, une certaine tradition d'interprétation. Il n'y a pas de tradition d'interprétation. Il n'y a pas de style, de manière d'interpréter tel ou tel compositeur. Il y a une pièce par un compositeur. Voilà. Et donc, évidemment, c'est important de savoir des choses sur le compositeur qui a écrit la pièce, mais il faut essayer, autant que faire se peut, d'examiner la pièce pour ce qu'elle est. L'alpha et l'oméga de la pièce, pour elle-même, comme un tout, comme un monde en soi. Et c'est pour ça que mes interprétations de Chopin, celles qu'on travaille avec ma professeure depuis des années, comme les interprétations de Bach et de Beethoven, c'est vraiment des interprétations qui cherchent à aller... À aller un peu à la source du message musical de la pièce. Alors voilà, ça peut paraître un petit peu prétentieux, mais au contraire, pour moi, c'est l'acte d'humilité par excellence, parce que c'est d'essayer de ne rien ajouter à la pièce. Voilà, parce que tout ce dont on parle, quand on parle de tradition, de style, de métronome, ça, c'est en fait quelque chose qu'on ajoute à ce qui n'est pas sur la partition. Voilà, il n'y a pas tout ça sur la partition.
Effectivement, l'interprétation, être garder le contrôle finalement aussi face à la critique, hein, vous le disiez, Lucas Debargue, c'est prendre confiance, évoluer, grandir, évidemment. Effectivement, vous jouerez 3 grands compositeurs le 17 mai au Théâtre des Champs-Élysées, dans ce programme de concert dont je parlais à l'instant. Il y aura donc Bach, l'opus 111 de Beethoven, ultime sonate, peut-être la plus difficile, la plus spirituelle aussi.
Je pense pas que ça soit la plus difficile du tout. Précisément parce que il y a toute cette aura mystique et que ça, on peut facilement s'accrocher à ça pour produire des sons entre guillemets jolis. Alors que la dimension, voilà, moi j'aime bien aborder cette pièce avec un certain pragmatisme, c'est-à-dire voir vraiment ce que Beethoven essayait de communiquer, ce que Beethoven fait avec l'écriture. parce qu'il y a quelque chose de passionnant ici dans l'écriture piano, comment ce premier mouvement très tourmenté, très bousculé aussi, bouscule l'écriture piano. On n'est pas sur une écriture piano orchestrale comme dans la Hammer Clavier, par exemple, il y a vraiment cette rutilance. Là, il y a des passages assez bousculés, il y a une voix qui apparaît, qui s'enlève, il y a vraiment un jeu d'écriture. C'est presque, ouais, c'est une sonate qui s'adresse aussi aux compositeurs, pas seulement aux interprètes. Il y a vraiment un message ici.
Et ça s'attend bien, Lucas Debarque, puisque vous composez, vous écrivez aussi. Eh bien, je propose à nos auditeurs d'écouter un extrait de ce concert que vous avez donné il y a très peu longtemps. C'était le 31 mars, c'était il y a un gros mois, au Théâtre des Champs-Élysées avec David Castrobalbi au violon, Alexandre Castrobalbi au violoncelle. Un extrait de votre trio pour violon, violoncelle et piano. Quelques mesures de ce premier mouvement du trio pour violon, violoncelle et piano de Lucas Debargue, qui est notre invité et qui est également au piano ici aux côtés de David et Alexandre Castrobalbi. Un enregistrement de mars dernier au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. L'une de vos œuvres, Lucas Debargue, comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous fonctionnez? Comment est-ce que vous vous nourrissez?
Alors, je vais essayer de la faire courte. Je n'écris que une fois que mon matériel mélodique, enfin, mes idées, mes thèmes, ont vraiment, j'ai envie de dire, macéré pendant des années dans mon esprit, que j'ai déjà vécu avec et que j'ai déjà pu peser leur viabilité. Voilà, j'ai besoin de voir si c'est possible de vivre avec, comme si c'était avec quelqu'un, pour voir si je peux écrire une pièce qui les développe. Mon projet, en fait, c'est de faire une sorte de cycle de musique de chambre qui constituera un peu mon opus 1, où il y aura mon quatuor symphonique que j'ai créé l'année dernière au Centre de musique de chambre avec Jérôme Pernaud. Ce trio sur lequel j'ai travaillé pendant 3 ans, alors il y a eu plusieurs versions successives, je sais qu'il y a quelqu'un qui va préférer celle-ci, celle-là, mais en fait pour moi, celle du 31 mars, c'est vraiment la version définitive, parce que depuis j'ai appris des choses, j'ai solidifié des choses.
Allez encore en apprendre, Lucas Debargue, bien sûr. Vous allez encore retravailler cette partition par la suite?
Non, je pense pas, parce que je pense que maintenant j'ai acquis un niveau qui me permette de développer, qui m'a permis de développer ces thèmes pour ce qu'ils étaient. Mais maintenant, on va voir ce qui se passe quand je pars un peu de zéro. Parce que là, je partais pas du tout de zéro. J'avais besoin juste d'un petit peu de démêler la pelote. Et c'est ce que j'ai fait. Donc là, je suis en train de terminer une autre pièce, une sonate pour violoncelle et piano. Ça fait 11 ans que je travaille sur cette pièce.
Alors là, le trio sera créé au mois de juin, le 23 juin en Suisse.
D'ailleurs. Avec Camille Thomas, violoncelle.
Voilà. Exactement.
Et qui est dédié à Jérôme Ducrot et Jérôme Pernaud. Voilà, ça c'est vraiment un duo très très inspirant pour plein de raisons. C'est des gens que je peux considérer comme mes amis. Pernaud pour son centre de musique de chambre, pour
le violoncelliste aussi.
Voilà, son énergie, son humanité, Ducrot pour son génie musical, hein, c'est quand même un des meilleurs compositeurs français d'aujourd'hui, hein, je pense qu'on le dit pas assez, mais moi je le dis. Et voilà, c'est des personnes avec qui j'ai déjà pu passer de longues heures à discuter, et c'est des personnes, voilà, qui, voilà, pour moi, ça a beaucoup de sens de leur dédier cette sonate.
Et vous avez bien raison, Lucas Debarque. J'ai entendu aussi que vous faisiez du karaoké en vacances quand vous passez quelques jours au camping. On pourrait imaginer aussi une composition qui réunirait toutes ces passions.
Ah, Lucas, ça, je ne sais pas. Mais en fait, c'est vrai que... Bon, je ne sais plus quand est-ce que j'ai lâché ça. Mais j'ai l'habitude, quand je suis invité, d'aller dans des hôtels assez confortables, voire très confortables, de me sentir assez seul dans des chambres assez spacieuses. Donc bon, des fois, j'ai l'occasion d'y inviter des amis pour me sentir moins seul. Mais quand je pars en vacances, mon idée, c'est pas forcément d'aller me faire un resort quelque part. C'est plus de partir avec des vrais, très, très bons amis et de prendre une voiture, des tentes et puis d'aller camper. Et effectivement, parfois, de me retrouver dans un camping et de faire du karaoké avec les estivants, quoi.
Bon, pour la prochaine fois, j'essaierai de mettre la main sur quelques vidéos. Lucas Debarque, des concerts à venir énormément, notamment celle-ci. Retenez cette date, chers auditeurs, le 17 mai au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Et puis en tournée cet été, le 10 juin au Festival des Heures Musicales de Briotte, le 1er août au Festival de la Roque d'Anteron, le 29 août, Salle Poirel à Nancy, et le 14 octobre à la Philharmonie de Paris. On en reparlera bien évidemment avec vous, Lucas Debarque, et puis de votre actualité discographique à venir l'an prochain,
avec
mais
plaisir.
Qui est encore un petit peu sous embargo. Merci Lucas Debarque, je vous souhaite une très belle journée, et puis on va se quitter avec, je pense, votre compositeur préféré quand on parle de musique pour clavier.
Scarlatti.
La sonate en la majeure, Kirkpatrick 24 de Domenico Scarlatti. Nous écoutions notre invité du jour, Lucas Debarque.
À réécouter sur francemusique.fr.